Bonjour Eduardo Berti, merci de nous accorder quelques temps. On profite de votre passage à Montpellier et 7 pour échanger avec vous. Alors, que peut-on dire de vous? Vous êtes écrivain, alors je ne sais pas s'il faut dire écrivain argentin encore, puisque maintenant vous êtes en train de devenir un écrivain français aussi.
Oui, je ne crois pas... je ne suis pas un fou ou un fanatique de cette idée d'écrivain...
nationaux,
comme oui, ça. Oui, nationaux, exactement. Moi, je dis que les écrivains ont grosso modo deux patries. Une, c'est la langue.
Ouais.
Et quand même, je ne suis pas certain que ce soit la seule patrie. Et je pense que finalement, la patrie, c'est la bibliothèque de chaque écrivain. C'est lecture. C'est lecture. Je pense que c'est là d'où on vient. Et...
Vous venez d'un pays de livres, alors.
Et je viens d'un pays, oui, je viens d'un pays où, bien sûr, cette bibliothèque avait beaucoup de livres argentins. Parce que, forcément, parce que j'ai grandi entre livres de Borges, de Cortázar, etc. Mais je viens d'un pays aussi qui est le fruit d'un mélange de culture, d'immigration. Et forcément, les bibliothèques étaient très hétérogènes, là-bas. Et je pense que ça se sent même dans l'œuvre d'écrivains comme... Borges ou Cortázar eux-mêmes, ce mélange ou cette multiplicité de culture ou d'influence, ça se sent aussi. Alors je pense que dans la plupart des écrivains argentins, on retrouve un peu ça. Il y a des choses argentines, bien sûr, mais il y a aussi beaucoup d'influences très hétérogènes. Ouais.
Alors, de France, souvent l'Argentine nous paraît comme un des pays peut-être les plus riches en écrivains. Hein, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup dans l'ensemble de l'Amérique du Sud, mais spécialement en Argentine. Et il y en a qui dominent. Vous avez cité Borges. Alors, quel est le poids aujourd'hui en Argentine d'un écrivain comme Borges? Est-ce qu'il encourage les apprentis écrivains, ou est-ce que c'est le monstre qui... on n'ose pas, quoi.
C'est compliqué quand on a une figure comme Borges... dans une littérature n'importe laquelle, hein. C'est dangereux. Ça peut être un cul-de-sac, ça peut être que une figure qui écrase, même ça peut, et ça a été un arbre énorme, richissime, extraordinaire, mais qui a caché une forêt, parce que avec un autre écrivain qui s'appelle Edgardo Kosarinski, qui est aussi cinéaste, on a fait ensemble, il y a quelques années, une anthologie qu'on appelait Galaxie Borges, et on a fait une anthologie d'auteurs plus ou moins contemporains, proches de Borges, amis, etc., qui sont, même des femmes, qui sont assez inconnues, même en Argentine, et qui ont été un peu cachées par Borges. Bien sûr, Borges est extraordinaire, et pour moi, c'est sans doute la place qu'il occupe est très juste. Mais parfois on oublie des écrivains où on méconnaît un peu, on connaît peu des écrivains comme Silvina Ocampo, Will Koch, qui est un écrivain argentin, qui a fait après une grosse partie de son œuvre en Italie, qui sont extraordinaires aussi, Angel Bonomini, des gens comme ça qui sont moins connus, qui peut-être ne sont pas à la hauteur de Borges, mais qui sont des très bons écrivains. Et aujourd'hui, pour les générations suivantes, ça a été un grand défi. Surtout pour des auteurs comme Saer, Juan José Saer, ou Ricardo Piglia, ou je ne sais pas, ou Puig. C'était très compliqué. Comment on écrit après Borges? Qu'est-ce qu'on fait? Mais je pense que chacun a trouvé des pistes. Et je pense que pour nous, qu'on appartient à la génération suivante, on ne fait pas partie de la génération immédiate, mais de l'autre, les pistes que cette génération qui est venue entre Borges et nous nous a données, bon, ça nous a beaucoup aidés. Mais je pense que sans doute ça a été spécialement compliqué pour cette génération.
La génération précédente.
Oui, la génération des années 80-90, ouais, sans doute, 70, oui.
Alors, justement, donc, vous avez grandi, vous, à Buenos Aires pendant les années 70, hein, donc avec la dictature. Et puis, alors, il n'y a pas que la littérature, hein, vous nous racontiez dans la rencontre hier, il y a la musique qui a été extrêmement importante pour vous, et vous me disiez qu'il l'est encore aujourd'hui.
Oui.
Hein, alors, il y a eu le rock, et puis il y a eu le tango, et vous disiez que ça, c'était des... un peu un espace de résistance, on pourrait dire, ou de,
oui, oui.
Ou, de respiration dans un régime extrêmement oppressant.
Sans doute. Je pense que la lecture et la musique étaient pendant la dictature des deux espaces de résistance. Plus tard, il y a eu aussi des espaces de résistance autour du théâtre en Argentine, un peu plus tard. Mais les concerts de ce qu'on appelait à l'époque rock national, qui était un mélange entre influence post-Beatles et mélodie, qui mélangeait des choses du rock avec des choses qui venaient un peu du tango, un peu de la nouvelle chanson, c'était un mélange de choses. Mais ces concerts-là étaient un moment de... Parce que la lecture était un acte de résistance un peu plus solitaire. Mais par contre, dans ces concerts-là, où on était parfois 50, parfois 250, parfois 1000 ou 2000, et c'était extraordinaire.
C'était énorme.
On se sentait moins seul aussi, je pense. Moi, j'étais très jeune. Mes premiers concerts, j'avais à peine 15 ans, 16 ans. Il y avait autour de moi des gens de 18 ans, 20 ans, 22 ans. Mais on était tous plus ou moins jeunes. Et pour nous, c'était un... Oui, c'était une respiration, c'est très bien choisi le mot. Ouais,
Ouais. Alors, quand on pense à cette époque-là, en France, quand on parle de musique et de chansons, c'est le Chili qui est souvent fait référence, hein, avec la Nueva Canción.
Absolument.
Mais il y a quelque chose d'analogue en Argentine, donc, d'après ce que vous dites, où c'est le tango qui existait déjà et qui a assuré un peu cette fonction de la Nueva Canción au Chili.
En fait, il y a eu trois choses en Argentine. Trois, et on pourrait dire même quatre. Il y a eu le tango, historiquement, mais en même temps, le tango était urbain. Mm-hmm. Mais il y avait aussi le folklore argentin, le folklore. On a eu Atahualpa Yupanqui, par
bien
exemple.
Bien sûr.
Et Mercedes Sosa, et d'autres moins connus. Après, il y a eu le rock argentin, bien sûr, mais le quatrième versant, si on peut dire comme ça, la quatrième chose a été... La Nueva Canción en Argentine, qui était des gens qui venaient la plupart du folklore, comme Mercedes Sosa, mais qui ont fait un pont avec, justement, Victor Jara en Chili, Chico Buarque au Brésil, et plus tard Silvio Rodríguez au Cuba. C'est-à-dire, Mercedes Sosa était un peu la figure phare. Mais Mercedes était quelqu'un d'extraordinaire, parce qu'au début, elle faisait du folklore, après, elle a fait le pont avec la nouvelle chanson des compositeurs comme César Issé, La Tejada Gómez, qui était plus dans... et même Viglietti, Citarros en Uruguay, ces compositeurs de gauche, plus classiques. Mais après, au moment de la fin de la dictature, c'est Mercedes qui a, d'une certaine manière, fait la grande bénédiction des stars de rock qui avaient fait la résistance. Léon Gieco, Charlie Garcia, des musiciens comme ça, on était repris par Mercedes. Et même, elle a fait tourner en Europe avec elle des musiciens comme Léon Gieco, qui venaient du rock. C'est-à-dire, elle était quelqu'un qui n'arrêtait pas d'ouvrir les portes. C'est une figure... c'était quelqu'un d'extraordinaire, humainement et en tant qu'artiste. Et c'est elle qui a fait des ponts partout. C'est elle qui faisait venir en Argentine Milton Nascimento et présentait Milton aux jeunes musiciens de rock en Argentine. C'est elle qui ouvrait tout le temps des voix.
D'accord. Alors, donc, vous avez beaucoup, vous avez vécu dans ce monde-là, vous avez écrit dessus, hein, vous avez même fait aussi animé une radio libre qui tournait autour de ces,
oui.
Cette culture.
Alors, la radio libre qu'on faisait, c'était une radio libre qu'on a fait pendant les premières années de la démocratie en Argentine. C'était vraiment libre, elle était illégale, à tel point qu'elle a été fermée par le gouvernement. Même en démocratie, ils ont fermé la radio, mais on a pu la rouvrir et tout ça. C'est une radio qui avait un pied sur la culture rock, mais l'autre pied, c'était une radio presque un peu pataphysique, un peu absurde. On inventait des personnages, on inventait des choses. Elle était très ludique, presque oulipienne. On faisait des jeux. On faisait un jeu où on envoyait les auditeurs. Ça s'appelait le rallye de la radio. Et on envoyait les auditeurs chercher dans les autres radios des alentours une chanson. C'est-à-dire, nous, on avait des écouteurs et on savait que dans une radio voisine, il y avait Let It Be the Beatles. Alors, on envoyait, on disait Let It Be the Beatles. Et les auditeurs devaient partir trouver dans quelle autre radio
ils étaient en train de diffuser
et revenir. C'est-à-dire, on était des fous parce qu'avec des stratégies comme ça, on perdait des auditeurs. Mais les gens jouaient les jeux. Il y avait même des équipes. Ils jouaient en équipe de 3, de 4. On s'amusait comme des fous et on a inventé des trucs bizarres. Voilà. C'était très intéressant. On était très jeunes. On s'amusait. Ouais.